Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revenons ce soir, en cette fin de semaine, dans nos lectures en liberté, sur le récit de Charles-Juliette Lambeau. Le village où tu habites depuis ton mariage est situé sur le plateau. Il ne comprend qu'une trentaine de fermes disposées le long de la route et du chemin qui la coupe à angle droit. Celle qu'occupe la famille d'Antoine s'élève au pied de la butte rocheuse qui domine le village. Hormis une boulangerie, celui-ci ne compte aucun magasin. Une fois par semaine, il est ravitaillé par un épicier qui vient de H avec une camionnette. Antoine et toi logez dans une ferme qui appartenait à l'une de ses tantes, morte il y a quelques mois. Cette ferme est semblable à toutes les autres. En avant, près de la route, une vaste et haute grange avec un portail qui, l'été, s'ouvre pour laisser entrer les chars à foin. Prise dans ce portail, une porte, constituée de deux panneaux indépendants l'un de l'autre. Lorsqu'il est ouvert, le panneau supérieur laisse pénétrer un peu de lumière dans la grange et surtout permet d'observer ce qui se passe sur la route et aux alentours. À l'arrière de la grange, la maison d'habitation, soit une cuisine flanquée d'un atelier de menuiserie et une pièce exiguë servant de débarras. Au-dessus, trois petites chambres. La cuisine est la pièce où l'on vit, la seule qui peut être chauffée. Une étroite fenêtre donne sur le jardin, mais la porte qui permet d'y accéder est en bois plein, de sorte que cette cuisine est toujours sombre. Lorsqu'Antoine t'a conduite ici la première fois, ces pièces t'ont paru lugubres. Aussi, avant que vous ne veniez les occuper, t'es-tu employé à les rendre moins inhospitalières. Tu as jeté beaucoup de choses. Et pendant des jours, tu n'as cessé de décrasser, récurer, laver. Vous aviez peu d'argent. Et vous n'avez pu vous procurer ce qui aurait permis de faire que ces pièces deviennent véritablement accueillantes. À plusieurs reprises, tu as été sur le point de révéler à Antoine l'épreuve que tu as traversée, mais tu as préféré garder le silence. Tu ne savais trop comment il aurait accueilli cette révélation, et surtout, tu redoutais qu'elle n'installe à jamais une ombre entre vous. Ce secret, tu devais le porter seul. Et peut-être serait-il à la longue plus facile de le rendre moins douloureux, de le laisser dormir au profond de la mémoire, ignoré de celui qui aurait pu en concevoir de la jalousie. Tu sais que tu n'éprouveras plus jamais un amour tel que celui que tu as connu, et tu ne pourrais mettre un nom sur le sentiment qui te lie désormais à cet homme devenu ton mari. Mais tu entends être loyal et tu es résolu à te détourner de ce qui a marqué ces trop noires années. Antoine va t'aider à renaître et en retour, tu seras une épouse irréprochable. Certes, tu retomberas parfois dans la souffrance, mais elle n'aura pas le pouvoir de te couper de lui. Lorsqu'elle te dévaste, tu cèdes, t'abandonnes, t'effaces. et tu n'es jamais capable d'autant d'amour qu'à ces instants-là. Antoine travaille dans une scierie à une quarantaine de kilomètres, et toute la journée tu es seul. Tu apprécies et redoutes ces heures de solitude. Quand tu ne peux la supporter, tu vas passer l'après-midi dans ta famille. Les deux villages sont proches, et lorsque tu prends les raccourcis à travers bois, la distance que tu dois parcourir se trouve réduite de moitié. À la faveur de ce changement de vie qui pour toi a été rude, tu as découvert combien tu aimes ta mère et tes jeunes sœurs, combien tu aimes les retrouver, leur parler, travailler avec elles. Quand tu franchis le seuil de la cuisine, que tu redécouvres son atmosphère, ses odeurs, que tes sœurs se précipitent vers toi, que le chien court en tous sens, aboyant et gémissant, tu es assailli par une foule de souvenirs. Et un flot de tendresse t'inonde pour cette ferme et ceux qui y vivent. Martine, 16 ans, la plus jeune sœur d'Antoine, te rend fréquemment visite. Elle sait que tu t'ennuies de ta famille et elle passe de longs moments en ta compagnie. Elle te parle d'elle, de ses parents, du village, de ses habitants, t'informe de tout un tas de choses qui t'aideront à te faire accepter. Au cimetière, tu as été frappé par une tombe sur la dalle de laquelle on peut lire « Ici repose l'étrangère ». Enterrée il y a une vingtaine d'années, cette femme avait été employée pendant 30 ans dans la seule grosse ferme du village. Bien qu'originaire de H, toute proche, elle avait été surnommée à son arrivée « l'étrangère ». Et ainsi avait-elle été considérée jusqu'à la fin de ses jours par tous les gens d'ici. Apprenant cela, tu t'es senti blessé. À penser à la souffrance de cette femme, t'es demandé pourquoi celui ou celle qui vient d'ailleurs suscite toujours crainte et méfiance, et non sans amertume, tu as dû convenir que c'était toi, désormais, l'étrangère. De génération en génération, le souvenir s'est transmis de ce régiment d'Autrichiens qui a séjourné là pendant les guerres napoléoniennes, et tu es surprise que les vieux en parlent comme s'il s'agissait d'un événement récent. Ils sortent de leur poche des pièces de monnaie datant de cette époque, donnent des descriptions détaillées de la tenue que portaient ces soldats, indiquent avec précision les emplacements qu'occupaient les différentes compagnies. Continue de déplorer que de telles quantités de foin aient été réquisitionnées, ce qui avait contraint leurs pauvres ancêtres, lesquels vivaient misérablement, à abattre de nombreuses vaches. Et un jour, Martine te parle du bagnard. Elle ne sait plus si c'est son père ou son grand-père qui avait été accusé d'avoir mis le feu à une ferme et à 3 meules de paille un dimanche de Pentecôte. On avait pu prouver sa culpabilité. Mais bien qu'il niât être l'auteur de cet incendie, il avait été envoyé au bagne. Depuis, pour tous, son descendant était le bagnard, et inévitablement, il avait été mis au banc du village. Âgé d'une 60aine d'années, il ne s'était jamais marié et vivait dans une solitude farouche. Le jour même où tu vas frapper à sa porte, tu le trouves à l'écurie, occupé à traire. Quand il te voit, il s'arrête, te dévisage longuement, puis enfonçant son front dans le flanc de la vache, recommence à presser les treillons. Le bruit velouté des giclées de lait crevant l'espèce couche d'écume fait remonter en toi bien des souvenirs et ajoute à ton émotion. Tu t'assois sur une botte de paille et coude sur les genoux, tête baissée, tu attends. Tu es trop bouleversé pour formuler ce que tu es venu lui dire. En réalité, ton seul désir serait de te jeter à genoux, de lui demander pardon, de prononcer les mots qui pourraient mettre fin à sa solitude, effacer sa souffrance, le réconcilier avec les hommes. Mais tu sais bien que c'est là chose impossible. Pour finir, comme il se lève, tu expliques que tu es la femme d'Antoine, que vous venez de vous marier, que lorsque tu as quitté ta maison, tu as demandé à ton père une seule faveur, pouvoir partir avec le chien. Mais il a refusé. Alors aujourd'hui, au risque de le déranger, en admettant même qu'il en ait un et qu'il accepte de s'en séparer, tu voudrais lui demander, mais de toute manière ce pourrait être dans quelques semaines, voire plusieurs mois, lui demander s'il n'aurait pas un chien dont il souhaiterait se défaire et qu'il consentirait à te donner.
Quand Martine reviendra danser dans les roseaux de ma jeunesse, quand Martine reviendra me prendre au fil de l'eau de sa tendresse, quand Martine reviendra sur la pointe des yeux se poser sur mon doigt comme un papillon bleu. Martine, je suis là de chercher après toi quand il pleut. Quand Martine reviendra jouer sur les temps froids de ma tristesse, quand Martine reviendra couper mon ciel en trois d'une caresse, quand Martine reviendra mon papillon blessé. Martine, ne faut pas les laisser t'abîmer. Martine, ces gens-là vont te tuer. Martine, Martine, et je t'aimais, et je t'aimais.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles Juliette, Lambeau. Tu as souffert dans ta famille de ne pas pouvoir t'isoler aussi souvent que tu l'aurais voulu. Tu savoures donc ces débuts d'après-midi où tu n'as rien à faire, où tu sais que tu as devant toi des heures de silence et de solitude. Accoudé sur la table, face à la fenêtre, tu restes un long moment à laisser ton regard errer sur le jardin, la petite église, les prés qui s'élèvent en pente douce, les bois et les sapins couvrant le faîte de la montagne. Puis, progressivement et sans que tu t'en rendes compte, tu ne vois plus rien de tout cela et tu glisses à l'intérieur de toi-même. Lové au creux de ta chaleur intime, l'esprit inoccupé mais actif, tu as l'impression que les questions qui continuent à te hanter vont trouver réponse, que tu vas être délivré de ce qui toujours t'oppresse, que tu es sur le point d'accéder à un état où tu ne connaîtras plus la souffrance. Qu'à la fin, tu doives déchanter n'empêche pas que tu sois très vite reprise par cette illusion. Et que la fois suivante, tu demeures à nouveau de longues heures en attente, avec l'espoir que ce jour-là, la vie te semblera enfin moins lourde, moins opaque. Mais le plus souvent, lorsque tu t'absentes de la réalité et descends en toi-même, tu ne rencontres que peur et angoisse. L'existence que tu mènes ne répond en rien à tes aspirations et tu te surprends à rêver de départ, de fuite, de recommencement. Quand tu en prends conscience, tu as le sentiment de trahir Antoine et tu cèdes à la honte. Tu cherches des raisons qui te convaincraient que tu finiras un jour par être heureuse. Mais tu ne les trouves point. Toujours en toi, cette nostalgie de tu ne sais quoi, ce besoin incoercible d'une vie dégagée de toute entrave, une vie libre et riche, vaste, intense, une vie où ne régnerait que bonté, compréhension et lumière. Ce que balbutie ta voix intérieure et qui, dans ce profond silence, prend un tel relief et une telle autorité, tu le consignes dans un cahier et ainsi passes-tu des heures à aligner des phrases, réfléchir sur un mot, sonder ces énigmes que sont la vie et la mort. En fin d'après-midi, quand tu as écrit une ou deux pages, tu te sens pacifié. Et ce qui initialement te paraissait placé sous le signe du négatif se présente sous un tout autre aspect. Lorsque tu entends les pas d'Antoine dans la grange, tu t'empresses de faire disparaître ton cahier. Il entre et tu le reçois avec gentillesse. Mais quelques minutes de transition te sont nécessaires pour quitter ton monde et reprendre pied dans la réalité. À plusieurs reprises, tu as voulu lui faire part de tes pensées, tes préoccupations, tenter de l'amener à réfléchir à ces questions auxquelles tu te trouves affronté. Mais tu as très vite perçu que rien de tout cela ne rencontrait en lui le moindre écho. Et il était d'autant moins susceptible de s'intéresser à ce que tu lui disais que lorsqu'il arrive en fin de journée, le désir qu'il a de toi le rend absent, l'empêche parfois d'entendre les mots que tu prononces. Le repas vite avalé, le lit, l'assaut brutal, son allaitement, et pour toi, un surcroît de solitude. Les parents d'Antoine ont mal pris que tu te sois rendu chez le bagnard. Ils t'expliquent que si on l'a mis à l'écart, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Tu aurais dû t'abstenir de lui rendre visite. Tout le village parle de toi. Il importe que tu fasses comme tout le monde et ignore l'existence de cet homme. Tu répliques calmement que son père a largement payé une faute qu'il n'a d'ailleurs peut-être pas commise et que rien ne justifie que son fils soit pareillement rejeté. Ont-ils imaginé une seule seconde ce qu'endure ce pauvre homme ? Après les avoir quittés, tu t'arrêtes chez lui, mais ta visite paraît le bouleverser et il te demande de ne pas revenir. Il te semble parvenu au-delà de la souffrance et ne peut plus rien attendre de ses semblables. Tu comprends qu'il est préférable de ne pas aller contre son refus et après avoir porté sur lui un long regard navré, tu le quittes. Tu as besoin d'activité physique. Et quand tu ne te rends pas chez tes parents ou quand tu n'es pas à écrire dans ton cahier, tu vas proposer tes services à des voisins. Tu aimes te dépenser et pouvoir te dire en fin de journée que tu as mené à bien la tâche qu'on t'avait confiée. En outre, tu as besoin de nouer des contacts, ébaucher des amitiés. Mais déjà c'est l'hiver, la neige, le froid. À cause de l'état des routes, Antoine ne rentre qu'en fin de semaine. Et tu passes de longues journées seul. Tu lis la Bible avec passion, écris, demeure de grands moments à errer en toi-même, la douleur d'être. Souvent, tu voudrais calmer ce combat qui se livre en toi, mettre ta pensée en sommeil, ne plus être aux prises avec ce tourment qui t'exténue. Tes joues creuses, tes yeux enfoncés dans les orbites, et où lui ce qui se consume. Tu as été heureuse de devenir mère et tes deux premiers enfants, des garçons, t'ont procuré de nombreuses joies. Tu t'es occupée d'eux comme toute mère doit le faire, avec une totale abnégation, sans jamais ménager ta peine, comblée de les voir grandir et se développer. Ils ont apporté une nouvelle dimension à ta vie et tu penses qu'ils vont t'aider à oublier le passé, t'aider à t'enraciner dans le présent, à créer un foyer où ils pourront s'épanouir. Mais pour l'heure, tu mènes une existence morose. À la Syrie, Antoine est maintenant chauffeur de camion. Du lundi matin au samedi soir, il sillonne les routes pour livrer des planches ou cahote sur de mauvais chemins pour sortir les grumes des forêts. Il ne passe que le dimanche avec toi. Et cette journée est chaque fois une déception. Tu ne peux rien échanger avec lui et tu te refuses à t'y résoudre. Durant la semaine, tu es seul. Mais les deux enfants te donnent tant de travail que tu n'as plus le temps de te consacrer à ta vie intérieure et tu en souffres. Ce qui fermente en toi et qui frappe à la porte de ta conscience, tu dois le refouler. Et cette vie perdue, tu la ressens comme une grave et douloureuse mutilation. Souvent, tu voudrais quitter ta cuisine, t'échapper un moment, aller marcher dans la campagne, mais tu te l'interdis. Dans un village où chacun travaille dur, il est mal vu qu'on ne fasse rien et qu'on aille se promener. Aussi préfères-tu ne pas céder à ton désir plutôt que de susciter des commérages. T'enfuir, marcher sans fin sur les routes, aller là où tout pourrait recommencer, là où tu ne connaîtrais plus ni la peur, ni l'angoisse, ni la honte, là où les humains vivraient dans la concorde, n'auraient pour leurs semblables que respect, attention, bonté, là où peut-être le temps ni la mort n'existeraient plus, là où la vie ne serait que joie, bonheur, félicité. Mais ces rêves et ces divagations sont de courte durée car la réalité est là que tu ne saurais oublier. Alors, une lourde mélancolie s'empare de toi. Ce que tu ressens et penses est comme amorti. La vie ne te traverse plus, semble s'écouler ailleurs, et il n'est rien qui puisse te tirer de la désespérance. Ton second enfant n'a pas 6 mois que tu es à nouveau enceinte. La perspective de cette 3e naissance t'accable. Ton organisme n'a pas eu le temps de reconstituer ses forces et tu es maintenant aux prises avec une constante fatigue. Tout effort te coûte et les enfants te pèsent. Parfois, en fin d'après-midi, Martine vient s'occuper d'eux et tu peux fuir. Accompagnée du chien que t'a donné le bagnard et indifférente à ce qu'on peut dire de toi, tu prends le chemin du cimetière et fais plusieurs fois le tour du marais. Tout en marchant, tu parles à ton chien. Tu as besoin d'entendre le son d'une voix humaine, de te libérer de tes questions, de laisser venir à tes lèvres ce qui gémit en toi et aspire à se dire. Mais au bout du compte, ces instants que tu passes à arpenter les chemins en parlant les mots qui montent de ta nuit ne te soulagent guère. Et de jour en jour, grandit en toi une âpre révolte à l'idée qu'on peut mourir sans rien avoir vécu de ce qu'on désire si ardemment vivre. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Charles-Juliette, Lambeau, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.